La Chine, comme on le dit souvent, est devenue l'usine du monde, mais pas seulement. C'est un pays sur lequel beaucoup d'économies, y compris occidentales, comptent pour se relancer. Vous avez évoqué les échanges, disons les contrats conclus récemment, mais il faut ajouter aussi un contrat d'environ 10 milliards de dollars qui, selon les Français, s'il était concrétisé, sauverait la compagnie française Areva, qui est un des fleurons, disons, de l'industrie française. Mais la Chine, c'est un pays aussi qui achète beaucoup des terres, des industries, qui sauve des entreprises en Europe, qui investit énormément. Donc, on pourrait dire que finalement, c'est un des pays clés sur lesquels même les grandes économies aujourd'hui comptent pour s'en sortir dans bien des secteurs.
L'Europe commerce beaucoup avec la Chine. La Chine aussi commerce beaucoup avec l'Europe. Qu'est-ce que l'Afrique propose à la Chine à part ses ressources minières?
Il est vrai que ces dernières années, la Chine, vu la croissance exponentielle de son économie, a besoin de ressources et a réorienté sa coopération avec l'Afrique. Il y a 30 ou 40 ans, sous l'époque de Mao, c'était essentiellement de l'aide. Mais aujourd'hui, la Chine, elle le dit très clairement quand vous regardez les différentes, le livre blanc, par exemple, sur la politique africaine de la Chine. Il est dit clairement que c'est une politique dite de gagnant-gagnant. Donc la Chine ne cache pas qu'elle va en Afrique parce qu'elle a des besoins en ressources, mais pas seulement. Donc, ce qui est certain, c'est que pour les pays africains, le grand danger, c'est cela, c'est de rester dans le schéma traditionnel qu'ils ont développé avec les pays occidentaux, qui consiste simplement à être des pourvoyeurs de matières premières. Alors, les pays rentiers, les pays qui produisent des ressources comme le pétrole ou les minerais, effectivement, sont dans un schéma comme celui-là. Ils sont globalement gagnants dans le sens où l'arrivée de la Chine a permis de tirer les prix vers le haut. L'arrivée de la Chine permet d'engranger des ressources, mais le danger, c'est que ces pays-là restent dans une situation de rente et ne diversifient pas leur économie. Cela dit, la Chine n'est pas en Afrique seulement pour les ressources. La Chine a des intérêts dans beaucoup de domaines, les infrastructures, par exemple. Il y a bien des pays dans lesquels la Chine construit des chemins de fer, des hôpitaux, des stades, des routes. Il y a des pays dans lesquels la Chine est présente juste pour des questions commerciales, donc les échanges commerciaux. Donc je pense qu'il faut voir le problème différemment. Et oui, les ressources sont importantes, mais elles ne sont pas tout. Et ensuite, il appartient aux pays africains d'utiliser ce levier-là pour diversifier leur économie, diversifier leurs partenaires et tirer un meilleur parti de la relation avec la Chine.
Oui, alors quelle est la différence entre la Chine et l'Europe et la Chine et l'Afrique?
Ben, peut-être une des différences, c'est que les pays africains sont des pays qui ont des capacités faibles. En Europe, il y a des normes. En Europe, il y a une capacité à résister. Par exemple, même si les Occidentaux recherchent l'arrivée de la Chine, il y a bien des secteurs qui sont protégés. Par exemple, où quand ils ont l'impression que c'est une OPA que les Chinois lancent sur des secteurs stratégiques, c'est bloqué. Ça, c'est arrivé en Allemagne, c'est arrivé aux États-Unis, au Canada, en France. Le problème avec l'Afrique, c'est que la plupart des pays n'ont ni la capacité étatique, ni le personnel, peut-être la compétence, ni parfois la volonté pour mieux, on va dire, encadrer cette relation-là. Moi, j'ai fait des enquêtes en Chine, par exemple, dans des ambassades africaines. Certaines, comme l'Afrique du Sud, les grands pays, en fait, ont une vision, sont capables de trier et de limiter lorsque c'est nuisible à leur économie. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas ce que l'on remarque. Donc je pense que, là encore une fois, vous savez, en matière de coopération internationale, chacun recherche ses avantages. Donc il appartient aux pays africains de mieux développer leurs propres capacités. Je sais que l'Union africaine, par exemple, a essayé de faire quelque chose comme ça pour essayer d'avoir une vision continentale de la relation avec la Chine, mais aussi avec les autres émergents. Mais il faut poursuivre dans ce sens-là pour que les intérêts des Africains soient mieux défendus.
Oui, est-ce que ce n'est pas aussi un manque d'un vrai marché commun, en Afrique, contrairement à ce qu'on connaît par exemple en Europe?
Je ne sais pas, je ne crois pas nécessairement. C'est vrai que la Chine a généralement une préférence pour les relations bilatérales, même si dans le cas de l'Afrique, elle a quand même participé à des opérations de renforcement de capacité continentale. Vous savez que le siège de l'Union africaine a été construit par la Chine.
A été
La
offerte
Chine,
par la Chine, oui.
voilà, exactement. Et la Chine contribue tout de même. Je ne sais pas, en Europe, malgré l'espace commun, il y a quand même beaucoup de rivalités commerciales. Chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Moi, je ramène cela où, effectivement bon, à une vision continentale, mais surtout aussi au développement de capacités étatiques pour qu'on puisse trier. Parce qu'en plus, la Chine, contrairement à beaucoup d'autres pays occidentaux, est quand même réceptive. Lorsque vous avez les capacités et que vous identifiez les problèmes, vous pouvez plus facilement vous asseoir, discuter et trouver des solutions. La balle est beaucoup, beaucoup dans le camp des pays africains.
Oui, alors justement, on accuse les pays africains de faire du business avec la Chine en fermant les yeux sur les droits de l'homme, alors que les Européens eux-mêmes, parfois, ils vont en Chine sans avoir le courage d'évoquer les questions de droits de l'homme.
Écoutez, vous avez vu même le président américain Donald Trump qui trompettait, justement, si on peut s'exprimer ainsi, contre la Chine quand il y est allé, il était lénifiant. L'ancien leader chinois Deng Xiaoping disait en 1989, quand il y a eu les Tiananmen, il disait « ne vous en faites pas, quand il y a du miel, les mouches vont toujours revenir ». Donc c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on demande aux Africains de s'abstenir d'une certaine façon de coopérer avec la Chine sous prétexte que la Chine ne respecte pas la démocratie et les droits de l'homme. Mais on court en Chine pour sauver sa propre économie quand on est un pays occidental. Donc c'est pour ça encore une fois que pour moi, il appartient vraiment aux Africains de savoir prendre leur destin en main et de faire comme tout le monde, c'est-à-dire défendre leurs intérêts. Mais pour cela, il faut des capacités, il faut des compétences et il faut une forme de leadership, il faut moins de corruption, et ainsi de suite.
Il faut une capacité d'absorption surtout, des investissements aussi.
Oui, ben, ça c'est sûr que l'Afrique a beaucoup de difficultés. Par exemple, tout le monde dit l'Afrique peut être la prochaine usine du monde. Mais pour ça, il faut repenser complètement la structure des économies, repenser le système d'éducation, faire en sorte qu'il y ait des gens qui savent faire des choses. Dans beaucoup de pays africains, on a une petite élite formée dans des domaines qui ne sont pas techniques et une grande masse de gens sans qualification. Si vous voulez que l'Afrique elle-même prennent, disons, sa place dans le système économique et puissent bénéficier de localisation et ainsi de suite, il faut qu'il y ait des gens qui sachent travailler. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui ont des compétences techniques. Il faut que le continent soit capable, comme vous dites, d'absorber à la fois les financements, mais aussi puisse absorber les usines et puisse faire travailler, ces usines-là.